beaucoup aimé cette série. Et puis dans ces 11 chapitres, une expression, une image m'a particulièrement frappé, celle de la marche avec Dieu. Au chapitre 5, on lit à deux reprises « Kénoch marcha avec Dieu ». On retrouve cette expression avec Noé au chapitre suivant. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Et tout au long de l'Ancien Testament, il est régulièrement question de cette marche avec Dieu. Les prophètes, bien souvent, ont appelé le peuple d'Israël à marcher avec son Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement que de marcher avec Dieu? Alors, même si on a tous une petite idée de la signification de cette image, j'aimerais que nous nous y arrêtions ce matin un peu plus longuement. Et c'est l'apôtre Jean qui va, j'espère, nous aider à mieux comprendre ce que signifie marcher avec Dieu, notamment de ce côté-ci de la croix. Alors dans la Bible, il y a différentes explications, définitions données à cette expression, mais celle donc qui nous intéressera ce matin se trouve dans la première épître de Jean. Donc c'est la page 805, première épître de Jean, le chapitre 1, et nous commencerons la lecture au verset 5. Donc 1 Jean 1, verset 5, et on s'arrêtera au verset 6 du chapitre 2. Donc c'est juste tout en haut de la page 805. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous vraiment par elle à toujours mieux comprendre qui tu es, à toujours mieux comprendre ce que tu attends de nous, pour notre joie et pour ta gloire. Amen. Alors Jean est parmi les derniers témoins oculaires de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'enseignement de Jésus-Christ. Il est âgé à ce moment-là et il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et on le voit, il s'empresse à nouveau à délivrer aux croyants cet enseignement qu'il tient directement de Jésus. On voit le pronom « lui » au verset 5. Hein, voici le message que nous avons entendu de lui. Lui est Jésus-Christ lui-même. L'enseignement que nous allons entendre donc vient de l'apôtre, mais ultimement, il vient de Jésus lui-même. Cette définition de l'expression « marcher avec Dieu », c'est d'une certaine façon Jésus qui nous la donne. Alors dans ce passage, nous avons une expression un peu différente de celle rencontrée dans le livre de la Genèse. Au verset 7, on lit « Si nous marchons, c'est pas avec Dieu, c'est dans la lumière ». Alors en réalité, cette expression « marcher avec Dieu » ou « marcher dans la lumière » sont synonymes. D'autant que Jean ajoute juste après que Dieu lui-même est dans la lumière, et juste avant, au verset 5, qu'il est lui-même la lumière. Si Dieu est la lumière, si Dieu est dans la lumière et que nous marchons nous aussi dans la lumière, nous marchons là où se trouve Dieu, nous marchons avec lui. Donc marcher dans la lumière, c'est marcher avec Dieu. Alors au moment où l'apôtre écrit cette épître, un certain nombre de faux enseignements circulent dans les églises. Alors parmi ces faux enseignements, il y avait celui qui consistait à décrocher notre façon de vivre avec notre appartenance à Dieu. Qu'importe notre vie, ce que nous en faisons, nous sommes à Dieu. Nous lui appartenons. Et Jean de rappeler ici qu'au contraire, notre façon de vivre montre bien, elle dévoile notre appartenance ou pas à Dieu. Celui qui marche dans les ténèbres, dont le péché est une habitude de vie, ne peut se prétendre en communion avec Dieu. Et au contraire, celui qui marche dans la lumière, qui marche avec Dieu, est en communion avec lui. Et on le voit au bénéfice de toutes les bénédictions attachées à cette communion, en commençant, nous le rappelle Jean, par la purification des péchés en vertu de la mort de Jésus-Christ. Donc marcher dans la lumière, c'est marcher avec Dieu. Mais à ce stade, nous ne sommes toujours pas très avancés sur le contenu exact de cette expression. Alors la suite du passage va nous aider. Jean va développer ce qu'il entend par marcher dans la lumière, marcher avec Dieu dans les versets suivants. Et merci Josias, on le voit, marcher avec Dieu, c'est adopter une attitude marquée par la repentance, la confiance et l'obéissance. Alors la repentance, tout d'abord, ce sont les versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors ces versets, on le voit, Jean nous exhorte à reconnaître humblement notre faute. La marche avec Dieu commence par la repentance. Dans les faux enseignements en circulation à l'époque de Jean, il y avait également celui du déni du péché, de cette disposition générale chez l'homme que nous partageons tous de rébellion face à notre Créateur. Alors en réalité, cet enseignement n'est que le reflet d'une attitude toute humaine, universelle, qui consiste à nier la présence du mal en nous, à nier cette rébellion. Alors nous n'avons pas besoin d'étudier toutes les grandes théories humanistes pour comprendre ce déni. Il nous suffit d'écouter les gens autour de nous et de nous entendre nous-mêmes parler parfois de nous-mêmes ou de ceux qu'on apprécie. Ce n'est pas un mauvais garçon. Il a un caractère de cochon, mais il a un bon fond. J'ai effectivement mal réagi, on peut mettre ça sur le compte de la fatigue. Autant de déni, d'excuses, de justifications irrecevables pour Dieu. Être dans le déni, nous dit Jean, c'est nous tromper nous-mêmes. Vivre dans l'illusion, dans le mensonge, c'est non plus marcher avec Dieu, mais marcher dans les ténèbres, loin de la vérité et de Dieu. Et c'est courir à sa perte. Tôt ou tard, quand on construit sur le mensonge, tout finit par s'écrouler. En adoptant cette attitude orgueilleuse, nous nous opposons de façon claire à Dieu et à sa parole. Nous faisons de Dieu un menteur. Sa parole de vérité n'est pas en nous. Marcher avec Dieu donc commence par reconnaître humblement, amèrement, le mal en nous, comme Pierre qui a pleuré amèrement après avoir renié 3 fois son maître. Alors il ne s'agit pas là de dresser une liste exhaustive, la plus exhaustive possible, de toutes les mauvaises choses que nous avons pensées, dites, faites, par commission ou omission, avec peut-être l'inquiétude superstitieuse d'oublier quelque chose. De toute façon, si on voulait dresser une liste exhaustive de tout le mal qu'on peut faire, on serait mal parti. Et si on pensait avoir bouclé cette liste, on serait encore plus mal parti. Il s'agit plutôt d'adopter cette attitude humble en reconnaissant avec une tristesse sincère notre faute et en ayant la volonté sérieuse, avec l'aide de Dieu, de changer les choses qui ne vont pas. Il s'agit de cette attitude où nous reconnaissons que décidément, par nous-mêmes, nos vies ne peuvent satisfaire notre Dieu. Marcher avec Dieu commence donc par cette repentance sincère. Si le constat amer du mal dans nos vies n'est pas fait, pas de marche avec Dieu. Les autres étapes à venir n'auront pas de sens. Alors une première question, vous repentez-vous régulièrement et sincèrement ? Votre vie est-elle marquée, jalonnée par la repentance ? Alors si oui, remercions Dieu pour la lucidité et la perspicacité qu'il nous a donnée pour démasquer le péché en nous et le lui confesser. Et puis si ce n'est pas le cas, demandons à notre Dieu cette lucidité qui nous manque. Demandons-lui de ranimer peut-être cette sensibilité au péché que nous avons perdu au fil des années. Pour ma part, j'ai parfois le sentiment que plus jeune, j'étais davantage gêné par le péché dans ma vie qu'aujourd'hui. Pourquoi pécherais-je moins aujourd'hui ? C'est vrai, quand on y pense, 30 ans en tant que membre d'une église, 10 ans en tant que responsable, une affaire qui roule. Mais Dieu qui sait toutes choses, qui voit toutes choses et qui sonde les cœurs, sait très bien que ça ne roule pas du tout. Que le péché est toujours bien là et que j'ai besoin de me repentir sincèrement, amèrement, jour après jour. Alors une précision, quand on parle du péché, on pense souvent à mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvaises actions. Mais les actions, tout ceci n'est qu'une partie du problème. Nous avons à nous repentir aussi de nos mauvaises priorités, des mauvaises orientations que nous donnons à nos vies et qui sont la conséquence de mensonges que nous continuons de croire ou d'idoles que nous continuons d'adorer. Est-ce que la marche avec Dieu, cette repentance nécessaire ? Pour moi et pour ceux qui m'entourent, que j'aime, font partie de mes priorités. Ou, et on en revient toujours au même travers, est-ce ma réussite au travail ? Ma réputation, ma famille, mes enfants, leur confort affectif et matériel, leur réussite professionnelle à eux aussi, qui occupe le centre. Alors pour le savoir, il est un critère assez parlant, soyons concrets, c'est celui du temps. Alors il serait artificiel et même dangereux, avec le danger du légalisme, de vouloir faire un décompte précis du temps passé pour Dieu, à l'écoute de sa parole, dans la prière, et du reste du temps, en travaillant bien à l'école ou au bureau, d'une certaine façon, on marche avec Dieu. En prenant soin de nos enfants, on marche avec Dieu. Alors ceci étant, c'est vrai que si notre exposition à la parole, si notre vie de prière, si notre communion fraternelle se limite à la portion congrue, si notre présence, même à ce moment important qui rythme les semaines, ce moment important de la présence le dimanche matin, devient très aléatoire, une petite lumière devrait clignoter. La marche avec le Seigneur est-elle vraiment ma priorité ? Alors que faire alors ? Que faire alors ? Ben nous remettre en marche, en commençant par nous repentir, d'autant que il y a de l'assurance en venant devant Dieu dans la repentance. Déjà, dans les versets 8 à 10, Jean nous rappelle que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Alors il va développer ce point justement dans les versets suivants, dans les deux versets suivants. Après la repentance, nous avons la confiance, ce sont les versets 1 et 2 du chapitre 2, « Mes petits-enfants ». Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si la marche avec Dieu commence par la repentance, elle se poursuit par la confiance en Dieu pour assurer notre salut. Si la repentance est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle a besoin donc d'être accompagnée par cette confiance, par cette foi en Dieu. Alors on le voit, Jean commence cette section par « mes petits enfants ». Une expression qui montre bien toute l'affection que Jean porte à ses lecteurs. Et il n'est pas illégitime de prendre ces mots pour nous-mêmes, sachant que Jean les écrit de la part de Dieu. C'est bien rassurant de nous entendre dire « mes petits enfants » après avoir confessé le péché en nous. Alors, en quoi Jean nous exhorte-t-il à placer notre confiance dans notre défenseur, Jésus-Christ le juste, et dans son œuvre salvatrice à la croix? Alors, son œuvre salvatrice à la croix tout d'abord. Jean n'a écrit que quelques mots. Nous sommes au tout début de sa lettre et déjà, pour la deuxième fois, il évoque le sacrifice de Jésus à la croix. Au verset 7 du chapitre 1, il parle du sang purificateur de Jésus et à présent de sa mort expiatoire ou plutôt propitiatoire pour nos péchés. Jésus a payé pour nous le prix qui nous permet d'échapper à notre condamnation. Il a fait l'expiation des péchés. Jésus, par sa mort, a apaisé la juste colère de Dieu envers nous. C'est la propitiation. Par sa mort, Jésus nous a rendu le Père favorable, propice. Jésus-Christ, ensuite, il est présenté ici comme le défenseur et le juste. C'est cette vie juste, parfaite, cette vie où Jésus, lui, a parfaitement marché avec Dieu, son Père. C'est cette vie parfaite qui pouvait seule apaiser la juste colère de Dieu. Et Jésus l'a vécu pour nous, à notre place. Et il nous l'a offert, il nous l'offre encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, caché en Jésus, Dieu, lorsqu'il nous regarde, voit cette vie juste de Jésus, son Fils. Et il n'a plus rien à nous reprocher. En cela, Jésus est le meilleur défenseur, le meilleur avocat dont on puisse rêver. Avec lui, de façon certaine, nous savons acquitté. Alors, une seconde question. Est-ce bien en Jésus seul, dans le Fils, seul que le Père nous a donné, que nous plaçons toute notre confiance pour notre salut? Alors, c'était pour la présentation du contenu des interventions qui allait rythmer un petit peu l'année avec les lycéens. Il y avait une double équation que je vous lis, Jésus plus quelque chose, c'est égal à rien. Et Jésus plus rien, c'est égal à tout. Nous sommes nombreux par la grâce de Dieu à croire dans le sacrifice de Jésus et à accorder de la valeur à ce sacrifice. Mais y plaçons-nous vraiment toute notre confiance? Ou devons-nous ajouter de façon bien orgueilleuse quelque chose, une victoire sur tel ou tel péché dans notre vie, un certain niveau de sainteté? Si nous voulons marcher avec Dieu, il nous faut venir à lui de la bonne façon, humblement, Jonathan aime bien dire les mains vides, les poches vides, sans rien, et lui faire confiance pour régler le problème du péché dans nos vies. Il nous faut humblement accepter ce moyen unique que Dieu nous donne pour échapper à la mort et nous y accrocher avec toute la force qu'il nous donnera. Il nous faut nous réfugier entièrement en Christ et dans sa mort à la croix, reconnaissant qu'elle est pleinement suffisante pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Marcher avec Dieu, c'est, pour notre salut, nous accrocher exclusivement seulement à Jésus et à ce qu'il a réalisé pour nous à la croix. C'est marcher dans cette confiance renouvelée que Dieu, dans son amour, a tout accompli et qu'il n'y a plus rien à ajouter. Et c'est un vrai soulagement, une vraie joie. Alors après la repentance et la confiance, l'obéissance. Versets 3 à 6. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Alors marcher avec Dieu, c'est aussi cette attitude humble d'obéissance. Alors Jean décline cette obéissance de deux manières. Il nous appelle à garder les commandements ou la parole de Dieu, puis à suivre l'exemple de Christ. Alors garder les commandements ou la parole de Dieu. Alors la première application pour l'obéissance, finalement la première obéissance, eh bien c'est de nous repentir. C'est de croire Dieu quand il nous demande de reconnaître le péché dans nos vies et de le lui confesser. Et puis la deuxième obéissance, eh bien, ce serait de toujours plus faire confiance à Jésus et à sa mort pour notre salut. Nous voulons garder les commandements de Dieu, nous soumettre à sa parole. Repentons-nous et croyons en Jésus. Alors bien sûr, il y a bien d'autres applications. Et au regard de la suite de l'Épître, nous pouvons insister sur l'amour pour les frères et sœurs. C'est une thématique qui revient constamment dans les Épîtres de Jean. Et Jonathan, dimanche dernier, a largement développé cet aspect si important de l'obéissance à la parole de Dieu. Aimer son frère. Il a prêché sur le chapitre 4 de cette Épître. Alors cet amour pour les autres est un amour qui se donne, qui se met en peine pour faire le bien des autres, à l'image de ce que Christ a fait pour nous. Et nous avons un peu la deuxième déclinaison de cette obéissance, c'est suivre l'exemple du Christ. Avec cet appel à se mettre en marche derrière Jésus, à suivre son exemple, Jésus montre bien que le christianisme n'est pas une religion comme les autres, où il ne s'agit pas d'abord d'une liste d'obligations et d'interdits à suivre pour satisfaire Dieu, la divinité. Il s'agit d'abord d'une relation, marquée par la confiance et l'amour. On va suivre Jésus parce qu'on l'aime. On va vivre comme il a vécu, nous y efforcer en tout cas, en réponse à son amour salvateur pour nous. C'est ce que Jonathan a développé dimanche et vous pouvez écouter sa prédication en ligne. Alors là aussi une question. Où en êtes-vous concernant l'obéissance à la parole? Votre vie commence-t-elle même de loin à ressembler à celle de Christ? Aimons-nous nos frères et sœurs autrement qu'en les saluant le dimanche matin? Saisissons-nous les occasions de passer du temps avec eux? Acceptons-nous de sortir de notre zone de confort pour les servir? Prier pour eux, on l'a entendu, mais de façon très pratique, les aider pour un déménagement, faire une visite, inviter. La repentance sincère et la confiance authentique se manifestent dans une vie d'obéissance. Alors si tel n'est pas le cas, veillons à ce que notre repentance soit bien authentique et notre foi au Christ seul, véritable. Et ensuite, prenons au sérieux cette question de l'obéissance et demandons à Dieu de nous aider. C'est le début de l'année, Michael l'a dit, c'est le temps des bonnes résolutions. Alors bon, j'ai entendu que entre 10 et 20% d'entre elles sont tenues plus d'un mois. Mais avec l'aide de l'Esprit, ce pourcentage pourrait grimper de façon toute spectaculaire. Est-ce qu'on peut penser en ce début d'année à un péché dans nos vies? Une faiblesse qui est là depuis longtemps et qu'on traîne? On s'est un peu accommodé avec ça. Est-ce qu'on peut de façon intentionnelle se dire que cette année est l'année où, avec l'aide de Dieu, on va vraiment lutter, se battre pour
avancer, mettre les choses en règle petit à petit. D'autant qu'il y a de la joie dans l'obéissance. Jean nous rappelle que notre obéissance est le signe de notre appartenance à Dieu. C'est le verset 5. Notre obéissance nous rassure donc, nous fortifie dans notre foi. Nous luttons avec détermination contre la pornographie dans nos vies. Nous sommes à Dieu. Nous reconnaissons humblement que nous plaçons encore trop souvent notre confiance dans nos biens matériels et nous demandons à Dieu de nous en délivrer. Nous sommes à lui. Nous avons dit oui à un frère qui déménage à 60 km de là. À l'heure de pointe, nous sommes à Dieu. Marcher avec Dieu, nous dit Jean, c'est adopter cette attitude de repentance, de confiance et d'obéissance. Si nous résumions, on pourrait dire que c'est se tenir humblement devant Dieu. Alors on vient de voir ce que voulait dire cette image de la marche avec Dieu. J'aimerais terminer sur le comment. Comment est-ce qu'on va marcher avec Dieu ? Comment est-ce qu'on va persévérer dans cette marche ? Marcher, c'est pas simple. Là, j'ai un petit peu randonné pendant les vacances dans la montagne. Bon, c'est fatigant. Connaissant notre nature corrompue, marcher avec Dieu ne va pas être facile. Résistons encore trop souvent à la repentance. Notre obéissance, on sait ce qu'elle vaut. Et nous pouvons être bien découragés parfois. Qu'est-ce qui va nous permettre de persévérer cette année, de nous accrocher, de marcher toujours et encore avec notre Dieu ? Alors bien sûr, on va regarder à Jésus. On va méditer notamment sur le deuxième point où Jean nous rappelle que nous avons un défenseur, Jésus-Christ, le juste auprès de Dieu, qui s'est offert à la croix pour nous. Mais pour cela, qu'est-ce que Dieu a dû faire en tout premier ? Alors à l'introduction, j'ai cité le nom de deux personnages, Enoch et Noé, qui marchaient avec Dieu. Alors, en réalité, le mot traduit par « marcher » apparaît pour la première fois au chapitre 3 de la Genèse, au verset 8, et il est utilisé pour Dieu lui-même. Alors, vous pouvez juste écouter, voilà ce qu'on peut lire. Il s'agit d'Adam et Ève, là. « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Alors, dans ce verset, on le voit, on l'a traduit par « parcourir ». Mais c'est le même mot dans l'original que « marcher ». Marcher, parcourir. Alors, c'est quand même très étrange que l'auteur utilise ce mot pour un Dieu qui n'a justement pas de corps, qui n'a pas de jambes. Dès le début du livre de la Genèse, le même auteur a insisté sur le fait que Dieu est esprit. Il n'a pas de jambes, il ne peut pas marcher. Et s'il marche ici, eh bien, c'est encore une fois une image. Mais une image qui dit déjà beaucoup sur le caractère de Dieu. Lorsqu'on lit que l'Éternel Dieu parcourut le jardin à la recherche de l'homme, on est précisément juste après la rébellion de l'homme contre lui. L'homme vient tout juste de rejeter son Créateur dans sa folie orgueilleuse. Il ne veut pas marcher avec son Dieu. L'homme vient de dire à Dieu, va-t'en. Et que fait Dieu ? Il descend pour marcher dans le jardin avec les hommes. On voit ici toute la grâce de Dieu, tout son amour, incompréhensible pour ces créatures rebelles. Adam et Ève ne veulent pas marcher avec Dieu, mais Dieu, lui, marche avec eux. Et ce qui n'était qu'une image dans le livre de la Genèse, ce qui n'était qu'une image à ce moment-là de l'histoire des hommes, eh bien, cette image va devenir réalité. Dieu va avoir un vrai corps, des vraies jambes, comme nous, pour marcher. Et c'est ce que nous dit Jean au tout début de cette lettre. Et d'ailleurs, en réalité, il ne le dit pas, il le martèle. Parce que c'est la chose la plus importante à savoir pour ses lecteurs. Alors on ne va pas tout relire, mais juste le verset 1, le verset 1 du chapitre 1. Ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Dans ces premiers versets de son épître, Jean parle de Jésus. Et plus particulièrement, il parle de l'incarnation. Ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux physiques ont vu, ce que nos mains ont vraiment touché, nous vous l'annonçons. Dieu s'est fait homme. Il est devenu un vrai homme. On a fêté Noël il y a 15 jours. Et nous avons bien fait de nous réjouir, car Dieu a marché avec les hommes. Dieu n'a pas attendu que les hommes marchent avec lui. Nous en étions bien incapables. Il est venu le premier pour marcher avec nous. Jésus a marché avec ses disciples sur les chemins de Galilée et de Judée. Il a marché au milieu des foules qu'il enseignait. Il a marché jusqu'au lieu de son exécution à Golgotha. Sans l'incarnation, sans ce miracle du Dieu tellement au-dessus de nous, qui s'est fait homme, la repentance, la confiance, l'obéissance n'ont plus aucun sens. Notre marche avec Dieu serait vaine. Ce qui va nous aider à marcher avec Dieu, à nous repentir, à nous accrocher à lui obéir, c'est de nous souvenir dans la reconnaissance et l'adoration que Dieu le premier a marché avec les hommes, avec nous. Alors c'est la période des bonnes résolutions, mais c'est aussi la période des vœux. Bon, c'est souhaiter la bonne année. Et c'est plutôt une bonne tradition. Mais je vous propose plutôt que de se souhaiter une bonne année, une bonne santé, on peut le faire, hein, on peut le faire. Mais de se souhaiter d'abord et avant toute chose une bonne marche avec Dieu. Les débuts d'année, c'est toujours la même chose. Voilà, on est toujours un peu ambivalent dans nos sentiments. On espère des choses, on attend des choses et puis on redoute peut-être des soucis qui vont survenir ici ou là. Mais ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est la marche avec Dieu. Alors ceux qui ne sont pas encore en marche, il n'y a rien d'ailleurs de politique là-dedans, à ceux qui ne sont pas encore en marche avec Dieu, ils viennent, ils écoutent, et on est heureux. Je les invite à rejoindre le cortège, à se repentir, à s'accrocher à Dieu, à s'accrocher à Jésus seul. Et puis à ceux qui marchent, parfois depuis longtemps, et ce sont de beaux exemples pour nous, eh bien je les invite à la même chose, à une marche avec Dieu marquée par une lucidité toujours plus vive concernant la présence du mal en eux, en nous, par une repentance toujours plus sincère, une confiance toujours plus pure dans la personne de Jésus et dans sa mort à la croix, par une obéissance toujours plus humble, cela les yeux fixés sur celui qui, le premier, a marché avec nous pour nous sauver. Quand la marche est difficile, regardons donc vers le passé, regardons avec adoration et reconnaissance notre Dieu qui est venu dans la personne du Fils, qui est devenu un vrai homme, qui a marché avec nous. Et puis regardons aussi vers l'avenir, lorsque nous marcherons au sens propre du terme avec Jésus, dans nos nouveaux corps, avec nos nouvelles jambes, à côté donc de notre roi Jésus. Marchons donc, cela pour notre joie, il s'agit d'une marche joyeuse, même si c'est vrai, elle est difficile, et cela aussi pour la gloire de notre Dieu. On va prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, on te remercie encore pour le don de Jésus. Merci parce que Dieu s'est fait homme et parce qu'il a marché parmi nous. Seigneur,
Aide-nous à mettre cette vérité au centre de nos vies, à faire de cela tout notre trésor et à marcher à notre tour avec toi dans la repentance, dans la foi, à nous réfugier toujours plus en Jésus et dans l'obéissance. Amen.